الظلام هذا شي يحير يبنزينكم في الظلام هذا شي يحير تحجبوا على الناس ترحلوا صبح بكري كل النجوم واقفين في رحمة وستر كل نجوم واقفين في رحمة وستر غير نجمة زهري اللي راحت تجري محلكم يا نجوم يا منسين القمر يا مصابح الليل احكي لكم سري يبنزينكم في الظلام هذا شي يحير تحجبوا على الناس ترحلوا صبح بكري كل نجوم واقفين في رحمة وستر يا وغي نجمة صهري اللي راح تجري كرهت من كان حبت تسافر قلت عندي الزين وسلاحي صبري يا نجمة أهداي راه قريب الفجر وين رايحة في الظلام بلاك تتبحري راه قلبي هواك وراه الصفر واعر بقاي معايا نديرك في بصري درتك فوق ريصان قادة العسكر في تاج الملوك وهدي من بكري درتك في العلام فرح باللي يفرفر فوق قبة القصور وعطيت لك عمري عزيتك كتير درتك في المنبر ومكانك بعد ما نموت في شواهد قبري بقي معايا راه ربي قادر يجمعنا في الخير والهنا شكون يدري الزهو وانا يا حبيبي انا داق خاطري كلامه كان سهل بلا ما يفسر قنعني وقررت قررت نجرب زهري يا نجمة الصبري راه مليح الصبر ما كاش كيسترا اللي مدحك غري قلت لي المكتوب كل شي تمقدر زيد نجوم كاينين شوف وحدة غيري اللي كان بيناتنا نعودو من الاخر انت شوف ما تدير وانا نعوم بحري وين درتي حبيبك في صفحة القدر ضحكت وقلت قلت حبيبي في حجري تنبدا الدمار درت يدي على الصدر من كترت الخباط حرش قلبي من ظهري تنبدا الدمار درت يدي على الصدر من كترت الخباط خرج قلبي من ظهري جزيتيني بالنكر يا جابد القدر لكني واقف بقدرة الباري الدفلة مرة أنا عندي سكر من كترة المار اللي دقتو في صغري ما دموني جبال بكلاني البحر كلي شي غبار نفطو من شعري أنا الشعر ما قريتش لكني نهدر نقول واش نحس ونوزن عباري لي قرك الزهر رديتي شاطر ما هوش هو اللي علم انتي اللي دراري سيف شعر وغامل مصدد ومزنجر بين وبين البهيم الفرق شواري يرد عليا إذا إذا كان شاطر نشبعو قافية مشكلة بباري ما تروحيش للبعيد يا شهبة الغدر تزغطي شوية من بعدك تغبري أنا قلبي نية انتي قلبك حجر تبقى بيناتنا تعيي تفكري نختم كلامي بالمسكول عنبر وصلت على الحبيب ريحة نواري الصحابة الكرام عمر أبو بكر نذكر أسمهم النور داري وعبد تختم شهد واستغفر بعد سلامه اللي في وقري سيد علي القام بوتارو حاضر مازلهم الاثنين شاهدين في الباري
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur le 102.3 FM. Est-ce qu'il faut que je m'éloigne du micro? Ranou est en train de gesticuler de l'autre côté. Bonsoir Ranou. Ranou, c'est notre technicien attitré. C'est grâce à lui que la mise en onde de cette émission est possible. Sinon, moi, je n'aurais pas été capable de le faire. Ce soir, c'est une émission algéro-algérienne. Et mais je dis algéro-algérienne, c'est parce que ce sont les deux émissions algériennes de Radio Centre-Ville, Taxi Maghreb et Montréal La Basse qui unissent leurs efforts pour vous consacrer quelques émissions spéciales sur les élections à la mairie de Montréal. Nous allons avoir l'immense plaisir de recevoir l'une des candidates à la mairie de Montréal, l'une des candidates. C'est vrai, il y en a deux. Il y a deux femmes candidates à la mairie de Montréal. Peut-être que vous le savez pas. Madame Louise O'Sullivan et Madame Harel. Il y a aussi le maire, l'actuel maire, Gérald Tremblay et Monsieur
Bergeron.
Bergeron, le grand Bergeron. Ce soir, nous ne recevrons que l'une des candidates, des candidats, je devrais dire, Madame Louise O'Sullivan. Il y aura d'autres émissions spécialement consacrées à ces élections dans les semaines à venir. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée au soccer, au football, puisque l'Algérie rencontrera dans un match explosif.
Il n'y aura pas d'explosion à Montréal.
Le Rwanda, non. Mais si, à Saint-Michel, si, il y en a toujours. Après une victoire algérienne, j'espère qu'il y en aura une autre et qu'il n'y aura pas d'explosion de joie. Je préférais que les gens restent chez eux à apprécier cette victoire et cette éventuelle qualification de l'Algérie à la prochaine Coupe du Monde de football. Je vous disais que les invités que nous recevons à partir de ce soir, nous le faisons bien sûr pour vous, pour vous donner l'opportunité de les connaître et de les entendre, de vous faire une opinion aussi et d'amorcer peut-être une réflexion sur eux, sur qui ils sont, ce qu'ils font et puis sur les visions mises de l'avant par leurs partis respectifs, parce qu'il y a des partis, il faut le savoir. À partir de ce soir, je suis Ranou est à la technique et moi je suis avec Lamine. Lamine, bonsoir.
Bonsoir Raissa, merci pour cette introduction. Il faut juste aussi mentionner qu'on va recevoir durant cette émission d'aujourd'hui, aussi les autres émissions, des candidats à la mairie des arrondissements. Ça va permettre aussi à la communauté maghrébine en général d'avoir aussi un point de vue par rapport aux candidats au niveau des arrondissements.
Et une idée aussi sur ces candidats, d'où ils viennent et qui ils sont. Et ils sont nombreux et il y en a qui viennent de très loin, qui viennent du Maghreb. Il y a des Maghrébins. on va les appeler comme ça en attendant de vous les présenter. Et donc à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la présidente du parti. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. Le parti s'appelle Montréal Ville-Marie. Et vous êtes présidente, secrétaire générale ou
Je suis la chef du parti.
La chef du parti.
En anglais, on dit the leader of the party.
The leader of the party. Moi, il va falloir que j'apprenne à prononcer l'anglais comme vous.
Mm-hmm. C'est gentil.
Sinon, je vais parler en arabe pour qu'on me comprenne. Donc, Madame O'Sullivan, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là avec nous. Nous allons profiter de votre présence, bien sûr, pour essayer d'aller dans plus en profondeur dans les détails, dans votre programme, dans ce que vous faites, dans les raisons aussi qui vous ont poussé à vous présenter à la mairie de Montréal. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et la première question qu'on vous pose, on va vous demander tout simplement de vous présenter à nos auditeurs.
Merci de m'avoir invité. Je suis accompagnée de deux candidats qui viennent d'outre-mer, Rim Zid, qui se présente avec moi dans Ville-Marie, dans le district de Sainte-Marie. Et j'ai David qui nous accompagne, qui se présente dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges et le district de NGG. Et tous les deux parlent arabe. Moi, tout ce que je peux dire, c'est Yala et Mabrouk. Mais je dois vous dire que je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, parce que les enjeux de cette élection est très importante. Nous avons un avenir que nous devons construire ensemble. Montréal a connu un passé dynamique, mais elle stagne depuis quelques années. C'est une plus que des décennies maintenant. Montréal doit retrouver son dynamisme. Alors, il faut la relancer. C'est pour ça que je me présente en politique durant cette élection. Vous savez, j'étais élue antérieurement. J'étais membre du comité exécutif avec l'administration Tremblay. J'étais nommée au comité exécutif. J'étais responsable d'abord de deux dossiers. J'étais élue au centre-ville de Montréal, dans le district de Peter McGill, dans l'arrondissement Ville-Marie. Après 4 jours, le maire m'a nommée au comité exécutif, même avant qu'on mette la clé à l'hôtel de ville au mois de novembre. J'avais un bureau le 11 novembre, avant qu'on entre officiellement à l'hôtel de ville, et j'ai siégé sur un comité de financement. Alors j'ai vu 3,6 milliards passer et être expliqué à 4 élus. J'étais assise avec Frank Sampino, qui était le président de l'exécutif, Monsieur Michel Prescott, qui s'est présenté au plateau, et Alain de Souza de Vista-Laurent. J'étais la seule femme qui a siégé sur le comité de financement. Et aujourd'hui, le budget est de 4,1 milliards. Madame Aral ne connaît pas qu'est-ce qu'elle parle. Quand elle dit que c'est un budget de 5 milliards, il y a une grande différence entre 4,1 milliards et 5 milliards. Et c'est pour ça que je trouve déplorable que les 3 autres partis font des promesses durant une année électorale avec des budgets de transport de 1,5 milliard pour 3 tramways. On dit qu'on va doubler le budget de la culture. C'est vraiment des promesses qui sont vides. Si on regarde les rues de Montréal, il y a tellement d'autres besoins ponctuels. On est élu pour rendre service aux citoyens. Nous sommes les servants du peuple, nous sommes les patrons par intérim des employés de la ville de Montréal. Et avant qu'on commence à faire des promesses qui sont vides, est-ce qu'on peut s'occuper des rues de Montréal? Est-ce qu'on peut s'occuper de l'aqueduc qu'on perd plus que 40% de l'eau qui a été traitée? C'est de l'eau perdue. Après que c'est des millions qu'on perd et on fait des promesses sans fond. Alors moi je pense qu'on doit penser à notre avenir, surtout l'avenir de nos enfants. Moi j'ai fait partie du club de ma cité. J'étais invitée par la jeune chambre de commerce. Et vous savez, les journalistes ont dit que j'ai dit deux choses qui m'ont beaucoup touchée. Mon fils a 27 ans et ils ont dit que j'ai commencé mon discours en disant que je parlais de mon fils. Mais en effet, je voulais que mon fils soit parmi l'audience. Mon fils ne fait pas partie de la jeune chambre de commerce parce qu'il travaille outre-mer. Et c'est dommage parce que les talents, les cerveaux quittent Montréal pour aller ailleurs parce qu'ils ont des opportunités qu'on ne peut pas offrir à Montréal. Alors, il faut créer de la richesse. Il faut construire, il faut prendre la construction de notre avenir en main. C'est la relance. Montréal a tout ce qu'il faut. Trop longtemps, nous avons été victimes de décisions prises ailleurs. Par un leadership d'action inclusif, on doit bâtir notre avenir autour de notre ville qui est cosmopolite. Vous savez, on m'appelle Louise O maintenant parce qu'on me confond très souvent parce que je porte le même nom que mon adversaire Louise Arel. Mais moi, je suis une personne cosmopolite. Je suis une immigrée moi-même. J'étais née dans, je vais vous surprendre peut-être, en Alexandrie, en Égypte. Mon père était avec une compagnie pétrolière. Et quand je suis arrivée à Londres, je parlais pas un mot d'anglais. J'ai eu beaucoup de difficultés à apprendre la langue anglaise. Alors on est venu, ma mère a décidé de se joindre à sa sœur ici à Montréal. Quand on est venu ici, c'est ici que j'ai appris l'anglais. Alors même si je porte un nom irlandais, je suis irlandaise. Je suis bilingue, je suis cosmopolite. Je suis comme vous. Je n'étais pas née ici, mon fils est né ici par contre. Alors Montréal, d'abord, l'avenir de Montréal, c'est nous tous ensemble, et on doit être à l'écoute du peuple. Je pense que le développement économique est le nerf de la guerre, parce que on doit créer de la richesse en encourageant des immigrés éduqués pour venir et investir et créer des emplois pour les gens qui sont sur le territoire. Je pense qu'on doit les ouvrir avec des bras ouverts. Le défi de Montréal et l'enjeu de cette campagne, c'est la création de la richesse. Si quelqu'un a un emploi, au moins on peut avoir un toit sur notre tête, on peut fonder une famille, on peut avoir un partage avec nos enfants qui est plus adéquat que quand on se trouve sans emploi. Il y a des pénuries d'emplois aujourd'hui, tout le monde le sait. Alors il faut aller à l'extérieur et créer la richesse en développant un service de développement économique stable. On a besoin des fonctionnaires qui vont rester en place. On a besoin du talent au développement économique et pas une porte roulante où ce que ces gens changent constamment. Comme vous savez très bien, quand on tisse des liens avec un client ou avec un contact, il faut garder la même personne dans le même dossier. Trop souvent, avec 18-19 000 employés à la ville de Montréal, c'est des portes tournantes. Et ça ne marche pas. Alors moi, je suis
Madame,
la seule.
Madame Sullivan, excusez-moi. Là, vous êtes en train de nous prendre de vitesse. Mmh. Vous êtes entré dans le vif du sujet directement. Mmh. Vous êtes en train de nous parler quasiment de votre programme. Mmh. Moi, j'aimerais revenir un peu en arrière. Vous avez été membre, vous venez de le dire, de l'équipe de Tremblay. Vous avez été la collaboratrice de Monsieur Gérald Tremblay. Vous avez travaillé avec Monsieur Zampino, etc. Deux personnalités qui ont été éclaboussées par ces derniers temps par des scandales. D'ailleurs, M. Zampino a démissionné il y a de cela.
Pour aller dans le privé.
Oui, pour aller dans le privé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez quitté justement le parti de Monsieur Tremblay?
Vous savez, en plein mi-mandat, on est élu pour 4 ans. Et dans ma deuxième année, j'ai remarqué que ça n'allait pas bien. J'étais élue au centre-ville de Montréal, dans le district de Peter McGill, au plein cœur du centre-ville. Mon district commençait sur Atwater jusqu'à l'université, Lac des Castors jusqu'à Place Bonaventure. Et vous savez, il y a 500 000 personnes qui traversent le centre-ville chaque jour. Et quand on me dit qu'il n'y a pas $1 million pour faire un meilleur nettoyage, balayage des rues en hiver, quand il y a de la glace sur la rue Sainte-Catherine, René-Lévesque, les rues artérielles qui sont la responsabilité de la ville-centre, et le maire de Montréal me dit qu'il n'a pas, il veut pas me le donner parce que c'est politique. Quand il veut investir 9 millions de notre argent, 27 millions d'argent qui vient du gouvernement pour déplacer le planetarium, quand on a d'autres besoins criants au centre-ville et dans d'autres arrondissements, je pense que les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont mal prises. Je connais le centre-ville comme au bout de mes doigts. Et pour déménager un planetarium dans l'est de la ville, peu importe si c'est l'est, ouest, nord ou sud, mais il y a déjà trois installations scientifiques. Le planetarium était seule, unique, une installation scientifique au centre-ville. Alors, quand vous allez au centre-ville et vous allez avec votre fille, vos enfants, vos neveux, vos nièces, et vous venez au centre-ville, normalement, vous vous déplacez sur la rue Sainte-Catherine pour manger, pour acheter quelque chose aux ailes de la mode, ou sur la rue Sainte-Catherine. Ça crée une richesse au centre-ville. On tue le centre-ville quand on enlève les bijoux du centre-ville. Alors, on n'était pas sur la même planète.
on tue le centre-ville aussi avec d'autres choses. Le problème des parcomètres, c'est un problème que vous-même savez, avez dénoncé à de cela quelques...
Tout à fait. Et regardez, moi, je suis pour la mixité d'avoir des choix. Si on veut, vous n'allez jamais me voir prendre une bicyclette pour aller rencontrer un client. Soyez rassurés de ça. Est-ce que monsieur le maire...
Vous y allez à pied?
Non, je prends ma voiture et je la garde dans un stationnement. Un petit moment. J'habite à l'Île-de-Sœur. Je rencontre 10, 12, 15 personnes. Je suis en politique, je dois me déplacer. Est-ce que le maire prend la bicyclette de sa résidence à Outremont? Est-ce qu'il se promène en bixi à l'hôtel de ville chaque matin? Je ne pense pas, c'est son chauffeur qui va
le
chercher.
Vous parlez de Tremblay?
De monsieur Tremblay.
Moi, je l'ai vu au centre-ville sur une bixi.
Oui, c'est du théâtre. C'est pour vous montrer qu'il peut monter sur une bicyclette. Est-ce qu'il prend la bicyclette de chez lui pour aller à l'hôtel de ville? Je ne pense pas. Je vais vous dire, on a besoin d'encourager les gens de marcher au centre-ville, de stationner leur voiture dans des stationnements. Il faut d'abord trouver un stationnement. Soit j'ai eu beaucoup de difficultés à stationner sur la rue Saint-Laurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des stationnements étagés, ponctuels, opérés par la ville de Montréal avec des sources de revenus pour Montréal, pour être investi dans les rues. Les pillages, je suis complètement contre les pillages à Montréal.
Gérald Tremblay veut instaurer.
Mais, et il a certainement convaincu M. Charest d'encourager les gens le gouvernement d'implanter ce système. C'est absolument absurde. Allez-vous travailler au centre-ville et dépenser d'abord? Les gens qui viennent au centre-ville, en grande partie, vont prendre l'autobus. Il y a des autobus qui sont très ponctuels de la rive sud et de la couronne nord. Ils prennent le métro, etc. Mais il y a des gens qui doivent prendre leur voiture parce que ça fait partie de leur travail. Ouais. Ils doivent se déplacer 2-3 fois durant la journée ou ils doivent déposer leur enfant à la galerie au Y, etc. Alors, est-ce qu'on peut avoir des stationnements bien placés, près de Place Bonaventure quand vous sortez quand vous entrez du pont Champlain? Ici sur le rue Saint-Laurent, est-ce qu'on peut avoir des stationnements étagés qui peuvent accommoder 5-6 étages de voitures? Comme ça, les gens vont se promener d'un bout à l'autre sur le boulevard Saint-Laurent ou au centre-ville. J'aimerais voir des voitures. Je veux pas voir 3 tramways. Quand j'entends M. Bergeron parler de 3 tramways qui va coûter 1,5 milliard de dollars, c'est absurde. On a besoin d'un autre système de transport. Puis, il y a un autre système de transport. Moi, je crois dans les voitures électriques. Alors, je travaille avec des chercheurs de la Suisse qui vont... Il y a des rubans qu'on peut mettre sous l'asphalte qui peut opérer des petites voitures, des smart cars, plus ou moins. Je les appelle des cybergénies qui peuvent venir vous chercher à votre porte sans conducteur et vous déposer de point A à point B. C'est l'avenir, vous savez, aujourd'hui, avec les GPS, avec toute la haute technologie. Mais Montréal a besoin d'un leader, un élu, un maire qui est visionnaire, qui va nous amener dans la 21e siècle pour avoir un avenir d'espoir. La ville est morose maintenant. Elle est très grise.
Madame O'Sullivan, c'est intéressant tout ça. Mm-hmm. Mais si on revient à des choses beaucoup plus, je dirais, terre à terre par rapport mm-hmm. à Montréal. Montréal, 50% de la population de Montréal vient de l'extérieur du Québec. Quand on voit l'administration, quand on voit tout ce qui est autour de la ville, c'est du blanc-blanc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps que l'administration de Montréal soit représentative de la population de Montréal et pas seulement d'un point de vue folklorique? Je sais qu'il y a une direction des relations interculturelles qui fait des activités folkloriques, mais dans la présence au niveau de l'administration, on voit presque pas ou rarement, quand on les voit, c'est au niveau de la direction interculturelle, la moitié de la population de Montréal.
Mais regardez, qui est venu m'accompagner aujourd'hui? J'ai une personne qui est une femme, pour commencer, qui est ici à Montréal depuis 9 ans, qui est instruite et est en train de poursuivre son doctorat à Paris. Et puis, on lui donne une opportunité de se lancer en politique. Je vais être son mentor. J'ai David, qui est un jeune qui travaille dans la restauration, qui m'a demandé pourquoi est-ce que vous m'avez choisi? Parce qu'il a un éclat. Il a une joie de vivre et très positive envers la vie et l'avenir. Il veut fonder une famille. Il est resté à Montréal. Il habite le cœur du centre-ville. Vous savez, moi, je trouve que la machine, présentement, pour bien répondre à votre question, est-ce qu'on a vraiment besoin de 103 élus sur l'île de Montréal? Il y a trop de décideurs ici. Rien se fait, consultation après consultation. On a besoin d'un maire de Montréal. Et on garde les 19 arrondissements comme tels, parce que c'est des quartiers. Et moi, je crois dans les quartiers italiens, libanais, on va sur l'Acadie, on voit des Arméniens, ça nous donne une richesse. Moi, j'ai toujours dit, la poire doit être coupée en deux. On a besoin des élus qui vont prendre, qui vont être des décideurs. Vous savez, à Toronto, il y a 3 millions de personnes avec 44 élus et un maire. C'est non-partisan, les 44. Il n'y a pas de parti. Alors, ils représentent leur district, leur quartier avec grande liberté. Alors, j'ai fait des calculs. 1,6 million divisé en 103 candidats, ça nous donne un chiffre, un élu pour 15 000 personnes. On regarde Toronto, 3 millions de personnes, le double. Ils ont moins que le double d'élus, 44 élus avec un maire, 45. On divise ça, c'est 66 000 personnes. Et moi, j'ai fait le calcul. 34 personnes élues avec notre parti, ça donne un chiffre de 47 000. Moins que M. Tremblay, qui donne un chiffre énorme. 15 000 personnes, un élu, ça veut dire une secrétaire, un bureau, des cartes d'affaires, des téléphones cellulaires. Je préfère mettre cet argent dans la formation de nos élus pour mieux vous servir et avoir une diversité right across the board.
Madame O'Sullivan, tout à l'heure, vous avez énuméré les raisons qui vous ont poussé à quitter
Monsieur Tremblay. L'administration Tremblay.
Maintenant, vous êtes vous-même candidate à la mairie de Montréal. Mm-hmm. Est-ce que au vu de votre expérience au sein de cette mairie et après avoir travaillé avec tous ces gens-là, est-ce que vous pensez que si jamais vous êtes élu, vous serez capable de remédier à certaines situations malsaines, on va dire, que vous avez énumérées tout à l'heure? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez être capable justement de remédier à toutes ces situations, de régler différents problèmes de la ville de Montréal, etc.?
Regardez mon historique. Pour commencer, j'ai 4 ans d'expérience à l'intérieur de l'administration. Monsieur Bergeon est conseiller de ville. Il n'a jamais été membre du comité exécutif. Parmi mes 4 dossiers, j'avais un dossier de la sécurité de revenus de 70 millions de dollars qui desservait 130 000 prestataires. Monsieur Tremblay voulait les vendre. Il voulait vendre nos employés, 1100 employés, à Québec, et moi, qui administrait les 130 000 dossiers. 1100 employés. Et Québec était prêt à nous payer 20 millions de dollars. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non à Tremblay, j'ai dit non au gouvernement de Québec vis-à-vis deux administrations, parce que je trouve que la charité commence chez nous. Moi, en anglais, on dit « I've got backbone. I stand up for what I believe in. » Et moi, je défends mes dossiers à fond. Le dossier de la prostitution était mon dossier. J'avais le dossier social communautaire. J'étais responsable pour le centre des affaires. Quand le développement économique nous a recommandé qu'on ne devait pas, ça allait être très coûteux d'avoir un quartier de spectacle. Et la culture est très importante. C'est le nerf de la guerre aussi dans notre campagne. Parce qu'on veut promouvoir toutes les cultures et la musique et les arts et le théâtre, etc. Je dois vous dire que j'ai dit, il faut exproprier. Moi, je suis une personne qui prend des risques et je suis intègre. Quand j'ai vu que les choses allaient mal, j'ai quitté.
Une question rapide par rapport, je reviens à l'emploi des communautés culturelles, parce que ma question ne concerne pas surtout les candidatures ou la présence de candidats, c'est intéressant, mais je parle surtout au niveau de l'administration. Le budget d'énergement de la ville de Montréal, c'est autour de 2 milliards ou de combien de...
Ben, regardez, le budget est énorme. Et en gros...
De déneigement, je parle du budget du déneigement seulement.
Oui.
Il y a combien d'entreprises qui viennent de Montréal? Il y a combien dans ceux dont vous étiez dans cette administration? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup qui viennent de Montréal, et ceux qui viennent de l'extérieur n'emploient pas des personnes de Montréal, ils n'emploient pas des communautés culturelles. Mmh. Est-ce que vous pouvez vous engager sur la question d'assurer, je sais très bien que créer des emplois aujourd'hui au niveau de l'administration c'est très complexe, mais est-ce que c'est possible que vous engagez en tant que candidate à la mairie, que toutes les entreprises qui ont des contrats avec la ville de Montréal emploie un minimum, je dirais 50%, puisque Montréal c'est 50% des communautés culturelles, emploie au moins 50% et qu'ils appliquent le principe de la discrimination positive.
Tout à fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi-même, quand j'étais élue, j'avais une, mon assistante était haïtienne. Si vous regardez l'éventail des gens avec qui je travaille, je vous promets, parce que moi-même je suis immigrante, j'ai commencé à vous dire que je n'étais pas née ici. Je vous ai dit que je ne parlais pas l'anglais quand je suis venue ici. J'ai appris l'anglais ici. Alors, je dois vous dire, je sais qu'est-ce que c'est le préjudice. Je l'entends, je le vis. Et le plus important, c'est que la ville de Montréal reflète la population. Que on est, peu importe la religion, peu importe la couleur, il faut avoir une ouverture d'esprit. On cherche du talent. Si vous êtes talentueux, faites bien votre travail, il faut vous promouvoir. C'est pas parce que quelqu'un, vous savez, la ville de Montréal a un gros problème. Ils font entrer leur parenté. Ça, c'est la première chose que je vais éliminer. Si vous êtes trop proche, vous êtes le cousin, la cousine, le frère, etc., et vous trouvez 5 ou 6 membres de la communauté, c'est sûr que les gens présentement qui sont dans le système, il faut bien comprendre ça. Il y a des syndicats. On ne peut pas mettre à pied quelqu'un qui est déjà enclenché dans le système. Mais quand il y a une ouverture, je vous promets, les ouvertures vont aller aux communautés interculturelles.
Ben, merci beaucoup, Madame O'Sullivan. Une autre question. Est-ce que vous accepteriez de venir pour un débat contradictoire en présence des autres candidats à la mairie d'ici 2 semaines si on vous invitait?
Je dis oui, tout de suite.
Excellent.
Catégoriquement.
Excellent. Donc, nous allons marquer une courte pause, passer de la publicité. Nous avons des engagements. Rano va s'en occuper. Une courte chanson et au retour, nous allons présenter, vous donner le dernier mot. Tout à l'heure, et présenter 2 de vos candidats.
J'aimerais beaucoup juste dire une chose. Vous savez, je dérange beaucoup. Parce que je suis la Louise qui est bilingue. Je suis la Louise qui comprend les autres ethnies beaucoup mieux que les autres. Je suis une personne de cœur et de terrain. Je suis très présente. Quand mes candidats avaient besoin d'aide pour aller chercher des signatures, c'est moi qui allais les chercher avec eux.
Excellent. Okay? De toute façon, vous ne nous dérangez pas.
Merci
alors,
beaucoup.
Pas du tout.
Merci.
Rano.
Je veux devenir chauffeur de taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux profiter d'offres intéressantes propres au domaine du taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux m'informer sur les possibilités de financement.
Carrefourdutaxi.ca. Le Carrefour du Taxi est le seul portail web qui offre les services et outils répondant aux besoins de l'industrie du taxi au Québec. Profitez-en et n'oubliez pas, le beau temps est toujours au rendez-vous avec le Carrefour du Taxi, une initiative de FinTaxi.
Montréalais et Montréalaises, le 1er novembre, c'est le jour d'élection municipale. Pour connaître l'adresse de votre bureau de vote, les noms des candidats ou suivre les résultats le soir de l'élection, ou encore, pour travailler le jour du scrutin dans l'équipe du président d'élection, rendez-vous à ville.montréal.qc.ca/élection ou encore, composez le 514-872-VOTE. C'est ma ville, je vote. Un message du président d'élection de Montréal.
Alors, nous sommes de retour sur le 102.3 FM avec cette émission spéciale élection. Élection du 1er novembre prochain, oui. Préciser quoi ? Ce ne sont pas des élections présidentielles. Donc, notre invité ce soir est l'une des candidates à la mairie de Montréal, Mme Louise O'Sullivan. Et elle a avec elle deux des candidats de son parti qui s'appelle Louise O'Sullivan Parti Montréal-Ville-Marie. Alors, il s'agit de Mme Zid Rim, qui est d'origine tunisienne, et de M. Riachi David, qui lui est d'origine libanaise.
Bonsoir.
Alors, on va commencer avec Mme Zid Rim. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord vous présenter en quelques mots, brièvement, et ensuite nous dire pourquoi vous vous présentez à ces élections?
Salamu alaykoum, Nesikol. En fait, moi, mon nom c'est Rim Zid, je suis d'origine tunisienne. Je suis venue ici depuis l'année 2000, et puis j'ai travaillé ici, j'ai fait un MBA à l'UQAM. C'est mon champ de spécialité, ce sont les changements organisationnels et les émotions et le stress au travail. Maintenant, je suis au doctorat, donc doctorante, mais à Paris 5 avec une co-direction de l'UQAM. Et je travaille sur la violence psychologique au travail durant les changements organisationnels. Donc maintenant, je me présente comme candidate à Sainte-Marie, au plein centre-ville, avec l'équipe de Mme Louise O'Sullivan. Et je suis au district de Sainte-Marie, c'est-à-dire avec beaucoup, c'est un district connu avec pas mal de problèmes qui portent surtout sur la violence. Et je pense que c'est pour ça que Mme O'Sullivan m'a choisie, parce que je peux être la personne le plus à l'écoute des gens et de leurs problèmes. Aussi, de ma part, j'ai accepté de faire part de cette équipe d'abord parce que je crois beaucoup aux compétences et à la persévérance de Mme Louise O'Sullivan, que j'ai eu la chance de travailler avec elle depuis 2007. Donc je sais très bien, c'est une femme dynamique qui vient aussi de l'extérieur, qui a combattu assez longtemps ici pour arriver à ce qu'elle est. C'est une dame qui connaît très bien le milieu des affaires, mais c'est une femme de cœur aussi. Mais aussi j'ai contribué parce que je veux être associée à une belle image, à une femme qui a beaucoup de charisme et de savoir-faire. Je veux pas que mon nom, comme doctorante et comme chercheur aussi, que j'appartiens à plusieurs organismes en France et ici de recherche, associé à n'importe qui. Parce que dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es. Je veux pas que mon nom de future doctorante ou docteur soit associé à n'importe qui. Et si je suis ici comme étrangère, que j'ai accepté ce poste-là malgré que j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est de faire savoir et d'encourager d'autres personnes de communauté interculturelle de participer à la politique. On sait pas, il faut un début pour tout le monde.
Exactement.
C'est-à-dire, chacun de ces personnes-là qui connaissent son politique, ils ont eu un début, une première expérience. Et c'est jamais trop tard. Donc, c'est une façon pour moi pour apprendre.
Il n'est jamais trop tard pour le faire.
Et c'est aussi une autre façon pour dire que nous, les immigrants, on est ici non pas pour faire des problèmes, mais on est ici pour créer de la valeur. C'est pour donner le plus à la société. On est là. On veut aider, on veut comprendre, on veut participer. Donnez-nous la chance de participer. On est venu ici parce que vous nous avez choisis, vous avez choisi les élites de tous les pays. Laissez-nous nous impliquer dans la société. Laissez-nous la chance. Écoutez-nous. On a beaucoup à vous apporter. On n'est pas là pour faire des problèmes. Et ceux qui font les problèmes, on va essayer de les inciter à les corriger, et c'est toujours possible. Il faut nous quitter, il faut nous encourager, et surtout, je dis à la communauté interculturelle, à la communauté maghrébine, de nous encourager et de nous quitter et de regarder tous les programmes. C'est pas de voter à moi personnellement, mais de voter quand même, parce que c'est nécessaire de voter, c'est d'exercer votre droit et de s'impliquer à la société, parce que c'est la seule façon d'améliorer notre image. Et si moi je suis ici, c'est pour vous. vous, c'est pour tout le monde, c'est un point de départ. Et si je serai ou je ne serai pas dans la politique pour les prochains mandats, c'est je veux laisser mon nom, le nom de mon pays, le nom pour les autres arabos, les autres arabos musulmans, pour continuer un autre jour. Et c'est ma façon de contribuer.
Le message ne peut pas être plus fort et plus sincère que celui de Madame Zid Rim. Madame Zid, on vous souhaite bonne chance pour ces élections. Et merci. Monsieur Riachi David.
Je suis un Canadien, mais qui a des origines libanaises. J'ai passé la plupart de ma vie au Liban, dans une école américaine, et puis je passais mes étés ici et j'ai fait le tour du monde comme opéré pilote. Je prends cette année comme pause et puis j'ai décidé de rentrer dans l'atmosphère politique de Montréal. J'ai vu beaucoup de fautes dans le système politique qui existe présentement à Montréal et je voulais être le changement. Je voulais être avec une partie qui a décidé de changer tout ce qui se passe dans ces jours-là. Et c'est pour cela que j'ai choisi la fameuse Louise O'Sullivan. Je l'ai trouvée la plus dynamique entre toutes les autres. Elle aime beaucoup la compétition. Elle n'est pas dictatoriale, comme on pourrait dire. Et puis, je voulais être la liberté du changement. Le peuple aime qu'il y a une loi qui protège et organise sa liberté. Mais quand sa liberté n'est pas organisée dans une façon qui lui convient, alors là, le peuple n'arrive pas à un point dans sa vie qui va lui aider à améliorer son pays et sa ville.
Monsieur Riachi, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en arabe aussi?
Ana ibn asli ibn Libnan و انا هلا بحكي مع الشعب العربي كله وبقول له انه المره هون اللي عم الحمله اللي عامله الحمله الانتخابيه ما عم بتنقي بس عالم من اولاد البلد يلي خلقوا هون وربيوا هون واللي جدودهم هون عم بتنقي عالم هن كانوا الاليت ببلادهم كانوا هن اعلى عالم ببلادهم ونقيتهم بس اجوا لهون وعملوا الايميغراسيون على موريال طيعتوا موريال هيدي النكهه وتتذكر العالم كله انه موريال منا مبنية على اثنين او ثلاثة اجوا سنة 1400 او 1500 او 1600 ولكن موريال هي دمج من ارواح وعالم وثقافات وديانات وشو بعد بدي اقول بس انه من كل انحاء العالم ومش فقط من منطقة واحدة ولا محددة وهيدي بس تزيد على شو على الديفيرسيتي اللي عنا إياها مش بس هون مش بس بكيبك ولكن بكندا والعالم كله
شكرا الأستاذ رياشي
شكرا لك
et on vous souhaite bonne chance.
Je vous remercie.
Un dernier mot peut-être Madame O'Sullivan.
Je dois vous dire le 1er novembre s'en vient très vite et nous avons une voix, on va l'exercer et comme toute chose moi je suis une personne qui veut m'entourer des gens qui vont refléter leur district, leur arrondissement. Je leur donne la liberté de dire qu'est-ce qu'ils veulent en public, dans la salle du conseil, avec cœur ouvert. Ils n'ont pas besoin de suivre ma ligne directive. Ils doivent défendre les intérêts des gens qui leur ont donné le pouvoir d'exercer leur voix.
Merci beaucoup, Madame O'Sullivan. Plaisir. Donc, on espère vous retrouver dans deux semaines. Le rendez-vous est fixé en présence des autres candidats à la mairie. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis bonne chance à vous.
Merci. Bonne soirée
merci
à vous.
Passez
merci.
Une belle soirée.
Merci.
See you. في وجه الحب اللي بيني وبينك قلبي عمره ما كان بدل ولا بغى واحدة خر غيرك قاسي قاسي حبك قاسي انتي جرحتيني قلبي واحساسي ناسي ناسي حبك ناسي قاسي قاسي حبك قاسي انتي جرحتيني قلبي واحساسي ناسي ناسي حبك ناسي
يالي 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 يالي
اللوم اللي عطيتك الحب والحنان جاية جاية تقولي لليوم انسى الباصي اللي بيناتنا كان قاسي قاسي حبك قاسي انتي جرحتيلي قلبي واحساسي ناسي ناسي حبك ناسي قاسي قاسي حبك قاسي انتي جرحتيلي قلبي
Et voilà, nous sommes de retour sur le 102.3 FM avec d'autres invités, bien sûr, toujours dans le même cadre. Cette fois-ci, nous recevons l'équipe presque au complet de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, François Perrault.
De chez nous, en fait.
De chez nous, en fait. Ouais. Montréal-Nord, Montréal-Est, Saint-Michel,
Petit Maghreb.
Qui est en train de grandir, attention, attention. On a fait un petit souk la semaine dernière et ça grandit.
Par rapport à l'année passée, ça commence à avancer.
Ah ben oui, c'est de plus en plus big. Et puis j'aimerais justement en profiter, puisque je parle de souk, j'aimerais parler de quelqu'un que j'ai rencontré là-bas. Et j'aimerais aussi saluer bien sûr l'excellent travail qu'il fait. C'est un artiste qui, sans faire de bruit, est en train de s'imposer comme artiste peintre. Il s'agit de Kamel Ben Mallat. Kamel Ben Mallat est un autodidacte qui fait un travail remarquable. Il était présent justement à cette superbe fête du souk du petit Maghreb. Kamel est le frère de Farid Ben Mallat, l'ancien gardien de l'USM Alger. Kamel, bravo et puis félicitations et continue, surtout continue. J'espère que tu vas grandir en même temps que le petit souk du petit Maghreb. Donc nos invités ce soir sont Madame Annie Sanson, qui est maire de Villeray-Saint-Michel Parc Extension.
Salam alaikum.
Salam alaikum. Yalalal. Elle est trop rapide, Annie. Comment ça va, Annie?
Ah, ça va très bien.
Ça
Je suis
très bien
contente d'être ici avec vous ce soir pour vous parler de la politique municipale.
Merci.
Merci. Alors, ben, on va vous laisser le soin de nous présenter, de présenter à nos auditeurs
Amine Dilva, qui est un des candidats de l'équipe de Annie Sampson.
Ben, écoutez, je suis accompagnée. J'ai une équipe merveilleuse cette année pour l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Et c'est quatre candidats qui se présentent à la fois comme candidats conseillers municipaux, quatre candidats jeunes, expérimentés, dévoués. Vous les regardez, des gens d'expérience qui veulent changer les choses à Montréal. Et ce soir, j'ai amené avec moi Harry Delva, qui est un patrouilleur qui a patrouillé les rues de François Perrault et de Saint-Michel pendant les 20 dernières années, qui a fait beaucoup de travail auprès de nos jeunes, qui en ont beaucoup de besoins aussi. Et aujourd'hui, ben, par rapport à tout son grand succès, ce qu'il a fait de notre quartier, je lui ai demandé de se présenter avec nous. Et il a accepté finalement, après beaucoup de tentatives, et il a accepté de nous faire ce plaisir-là, parce que Montréal a besoin d'avoir des gens qui pensent aux gens et non qui pensent à autre chose. Donc, avec Harry, je suis extrêmement confiante de pouvoir avoir ce candidat conseiller qui sera, entre autres, celui du Petit Maghreb, parce que le secteur qu'il représente est celui-là avec le parc François Perrault. Donc, Harry est là déjà depuis longtemps. Il nous a fait toutes les fêtes, le Petit Maghreb, le souk et tout ça. Donc, il est avec nous.
Bonsoir. Salam alaikum, c'est ça?
Wa alaikum salam.
Moi, je poserai une question un petit peu générale à Mme Annie Sampson comme point de départ. Vous allez terminer donc votre mandat bientôt. Il se termine très bientôt. Je pense que vous avez eu votre dernier conseil la semaine passée, ou c'était cette semaine?
Non,
cette
mardi semaine passée, dernier.
Mardi dernier. Si on vous pose la question, qu'est-ce que vous avez pu réaliser d'intéressant pour les citoyens de l'arrondissement, donc Villeray, Parc Extension et Saint-Michel, et qu'est-ce que vous aurez aimé réaliser qui n'a pas été réalisé?
C'est une très bonne question. Je vous dirais que ce que je voulais réaliser a été réalisé. En politique, vous savez, les politiciens font plein de promesses, puis souvent, on nous accuse de pas les tenir. Alors moi, j'en fais pas beaucoup, mais je m'assure de faire celles que je suis capable de tenir. Donc, on a fait énormément de choses dans Saint-Michel, dans Villeray et dans Parc Extension, qui est le deuxième plus gros arrondissement à Montréal, le deuxième le plus populeux, et celui où il y a beaucoup de défis. Donc, à travers l'arrondissement, j'ai livré avec mes citoyens beaucoup de luttes, mais beaucoup de travail qu'on a pu faire avec nos organismes communautaires. On a réussi à créer un lien de confiance entre l'appareil municipal, les citoyens et les organismes communautaires en les soutenant. On a également réussi, j'ai réussi quand même à donner à mes citoyens de Villeray une résidence de personnes âgées auxquelles les gens en avaient vraiment besoin. On a travaillé avec la communauté, on a réussi à livrer une résidence de personnes âgées pour eux, donc pour les gens de Villeray qui restaient dans le quartier, qui vieillissaient, qui avaient des problèmes et qui voulaient rester chez nous, vieillir chez nous. On a travaillé beaucoup à la consolidation de nos parcs. On a fait beaucoup de travail dans nos rues. Mais j'ai un projet particulier qui me tenait, bien évidemment, le Petit Maghreb. Ça, on en parle déjà. Et j'ai un projet particulier qui me tenait à cœur. C'était, vous savez, je suis célébrante de mariage. Et quand j'ai accepté de célébrer des mariages, je le faisais dans un but, parce que je le fais tout à fait de façon bénévole. Et vous avez pu voir dans les journaux, je suis celle qui a le plus marié au Québec. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le fun, parce qu'on peut jaser avec les gens, on participe à un moment de leur vie important, mais je peux dire que j'ai fait la différence avec eux dans ces moments importants. Mais ce qui était le plus important pour moi, c'était de dire, ben, tout l'argent qu'on reçoit pour les licences de mariage, je l'ai mis dans un fonds de sécurité alimentaire. Et ça, c'est personnellement, c'est moi qui l'ai mis en place. C'est ce que je voulais faire. Je voulais redonner à la communauté ce que moi, je faisais. J'ai choisi de faire du bénévolat en faisant ces mariages-là et j'ai choisi la cause à laquelle on devait la dédier. Dans notre arrondissement, qui est un arrondissement, je vous dirais, qui ne roule pas sur l'or, je me suis rendu compte durant la dernière campagne électorale qu'il y avait beaucoup d'enfants, et je vous dirais plus que la moitié de nos enfants, qui mangeaient pas 3 repas par jour. Et la sécurité alimentaire devient là un énorme problème. Et je me disais, comme maire d'arrondissement, j'ai beau faire des beaux parcs, j'ai beau faire des beaux gymnases et plein d'activités, mais quand mes jeunes n'ont pas la force de s'y rendre, il y a un problème. Alors, finalement, au bout du temps, et je l'ai annoncé au dernier conseil d'arrondissement, j'ai pu accumuler 28 000 $ juste en mariage. 104 mariages, 28 000 $ J'ai créé ce fonds-là. Et je voulais en faire plus. Et 28 000 $ c'est déjà quand même beaucoup pour donner des paniers de Noël ou des paniers ou des dépannages alimentaires. Alors, j'étais allée voir des commerçants de l'arrondissement et je leur ai dit 2 commerçants, entre autres, le Super C et Semi-Fruits, parce qu'on sait que les gens ont besoin de légumes frais, mais ont aussi besoin de canages et de légumes aussi ou de canages qu'ils peuvent manger à la maison en tout temps. J'étais allée les voir et j'ai fait une entente. À chaque dollar qu'on va va dépenser chez eux, ils vont nous en donner $1 en échange. Donc, le fonds est passé de 28 000 à 56 000 $. Et ça, c'est un geste personnel que j'ai posé. Imaginez si tout le monde pourrait avoir cette vision-là à Montréal et mettre les besoins de nos citoyens en avant-scène. C'est à ça qu'on sert les élus, c'est de pouvoir essayer de matérialiser plein de réalisations. Puis ça, pour moi, c'est un beau cadeau que je peux faire à ma population.
Excellent. Madame Sanson, on parle beaucoup quand on est en période de, en pleine campagne électorale. Tout le monde sait ça, les politiciens font plein de promesses à droite et à gauche, ils font des annonces tonitruantes, des annonces des fois abracadabrantes. Ça y va, c'est-à-dire à tout vent. La question que se posent les électeurs en général, c'est quand il y a des promesses comme ça, quand les personnes sont élues en général, ils oublient une grande partie des promesses qu'ils ont tenues, qu'ils ont fait à leurs électeurs. Vous, qui avez déjà été élu, vous êtes en fin de mandat, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez promis quand vous étiez en campagne électorale et que vous n'avez pas fait ? Et que vous regrettez de ne pas avoir fait. C'est presque la même question que tout à l'heure, mais
autrement.
Autrement, oui.
Oui, j'ai un dossier en particulier qui m'a beaucoup peiné. Vous savez, c'est mon 4e mandat que je fais. Donc, je rentre dans ma 5e campagne électorale municipale. Le seul arrondissement à Montréal qui n'a pas sa propre maison de la culture est le nôtre. Je l'ai promis en 1994. Les fonds n'étaient pas là. On a fait une campagne électorale en 1998 où on l'a promis avec l'équipe de M. Bourque. Les fonds étaient là. La nouvelle administration est arrivée. Les fonds étaient là en 2001. On a fait, entre autres, on a coupé les rubans. Tout était là. Les études d'impact avaient été faites. Les architectes ont fait les plans. L'administration est arrivée. L'administration Tremblay en 2001 a fait disparaître, à l'intérieur d'un an, le budget alloué à l'arrondissement pour faire une maison de la culture. 2001 est arrivé. 2005, l'administration Tremblay est venue chez nous, dans mon arrondissement, couper un ruban pour dire « Voici votre maison de la culture ». On est rendu en 2009. La maison de la culture n'est toujours pas là. Et c'est pas juste ma faute, là. C'est quand même assez gros, ce dossier-là. On est le seul à Montréal à pas l'avoir. Et là, on a passé proche de l'avoir. L'arrondissement a mis les sous de côté, on est prêt. Mais ce bâtiment-là a été pris dans des nombreux scandales qu'on connaît à la ville. Puis si vous me donnez le temps tantôt, ça me fait plaisir de vous en parler. Mais rappelez-vous le scandale de la SHDM. Mais le bâtiment qui devrait nous appartenir, et il y a un moratoire dessus parce que ça faisait partie des bâtiments de la SHDM qui nous appartient. Mais il y a des enquêtes, donc on peut plus rien faire. Alors pour une mauvaise gestion, les citoyens de mon arrondissement sont encore lésés. Et j'ose espérer que l'administration n'ira pas faire la semaine prochaine une autre coupure de ruban pour annoncer pour la 5e fois, 5e élection, qu'on va avoir enfin une maison de la culture. Et là, je comprends les gens qui nous disent, les politiciens, vous faites des promesses que vous tenez pas. Et dans celle-là, moi, je l'ai promis parce que je savais qu'on pouvait le faire. Et entre-temps, les données ont changé. C'est pas moi qui ai contrôlé le dossier, mais encore, malheureusement, en 2009, on l'a toujours pas. Et ça me déçoit beaucoup.
Comme quoi, des fois, on n'a pas tous les atouts en main. On se retrouve les mains liées. On peut pas agir à notre guise.
Tout à fait. Mais surtout quand on est plusieurs. Hein, la ville, elle s'est complexifiée depuis les dernières années. Donc, vous avez entendu tantôt Mme O'Sullivan qui disait il y a des artères artérielles, il y a des rues locales. Mais moi, chez nous, je peux juste vous donner l'exemple de vous montrer comment c'est cacophonique gérer Montréal. J'ai une rue qui s'appelle la rue La Jeunesse au coin de la rue Jarry. Sur Jarry, c'est une rue artérielle. L'administration a imposé des parcomètres le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le dimanche. Donc, les gens de l'arrondissement, moi, j'ai réussi à dire le dimanche, je n'en veux pas de parcomètres dans mes rues locales. Mes collègues ont voté pour le lundi soir, mardi soir, mercredi soir. Bien, chez nous, si vous venez le dimanche, stationnez-vous dans des rues locales parce que vous ne payez pas. Mais si vous êtes sur le coin de La Jeunesse et Jarry, bien, moi, je dis à mes soins, allez sur La Jeunesse, c'est gratuit. Vous allez sur
Jarry. Il faut juste les indiquer. pour savoir quelle rue est sur autorité d'arrondissement et quelle qui est sur... Moi, j'ai une question par rapport à la question de la violence. Depuis un certain moment, on parle à Montréal, suite aux événements de Montréal-Nord, d'une peur, de la propagation de ce qui est arrivé à Montréal-Nord. On sait très bien que vous êtes donc candidat dans un arrondissement, je pense, il est parmi les plus multiculturels, même
oui,
au Canada.
Oui, oui.
Qu'est-ce que l'arrondissement pourra faire? Qu'est-ce que les conseillers pourront faire sur la question de la violence pour travailler sur la prévention?
Ben écoutez, je pense qu'on a un exemple concret chez nous que ça va bien. On a investi beaucoup avec les organismes communautaires, avec les citoyens, avec des activités qu'on fait pour nos jeunes. La police, elle est très présente. Autant les gens peuvent la trouver répressif, je peux vous dire que dans notre arrondissement, avec la police de proximité, la police de quartier, on a réussi à installer plein d'activités qui touchent nos jeunes. Que ce soit le soccer, que ce soit le basketball, que ce soit la boxe, on a trouvé de tout pour nos jeunes. On a des gymnases qui sont ouverts à Louis-Joseph Pépineau jusqu'à minuit le soir pour dire à nos jeunes, ben on vous donne la chance, au lieu de traîner dans la rue, venez à l'intérieur. Et juste pour continuer, je laisserai peut-être Harry pouvoir en parler parce que c'est vraiment sa spécialité. Puis vous allez voir l'expertise qu'il a. Je pense que les Montréalais en ont besoin. Harry.
Ah ben merci. En fait, oui, alors quand on parle en général de la violence, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, il y a des jeunes qui, à un moment donné, ont décidé de prendre un petit peu une société d'assaut pour crier très fort le malaise qu'ils ont entre eux. Maintenant, si on fait la différence, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec Montréal-Nord, c'est que pendant les 20 dernières années où on pensait qu'il y avait des choses structurelles qui se faisaient à Montréal-Nord pour contrecarrer la problématique de la délinquance chez les jeunes, on s'est rendu compte qu'il y avait plutôt des organismes qui se tiraient la couverture d'un côté comme de l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un organisme communautaire, il y a cette question du financement. Ça veut dire que si tel organisme a tel financement, ben l'autre organisme ne l'aura pas. Donc il y a toujours un peu cette chicane que finalement à Saint-Michel qu'on n'a pas eu. Ça veut dire que au début, on a regardé, on a remarqué comment ça se passait. On s'est rendu compte que le même jeune que le service de police approchait, que les centres communautaires approchaient, qui était dans les écoles et finalement qui était dans le système, ben on pouvait s'asseoir tous ensemble et voir comment on allait gérer ce jeune, parce que c'est une question vraiment de gestion. Comment gérer le jeune par exemple qui sait que pour une raison ou pour une autre qui sait qu'il ne doit pas se trouver du côté du métro par exemple parce que suite à certains problèmes, ok, il a eu des conditions, et bien à ce moment-là il y a différents acteurs qui vont lui répéter exactement la même chose et nous savons tous exactement ce qui se passe avec ce jeune-là, donc on peut gérer la situation et prévenir ce qui peut arriver. L'autre chose, c'est une approche policière qui est vraiment, je dirais, là aussi, c'est 20 ans d'expérience avec les policiers qui sont là. Quand on parle de Charles Dubois, par exemple, qui a commencé en même temps que moi, ok, nous, on s'était vraiment dit que, ben, étant donné qu'on a nos jeunes, on ne travaillera pas seulement en répression avec eux. On va essayer de donner à ces jeunes-là une chance et de comprendre aussi ce qu'ils vivaient. Et c'est ça qui fait la différence parce que Charles a su, lui aussi, aller de l'avant et faire une intervention avec les jeunes qui était complètement différente. Ceci dit, un jeune qu'on sait qui peut être un jeune problématique, parce qu'on le sait très bien, des jeunes, ça bouge. On ne peut pas empêcher un jeune vraiment de bouger. Alors, ce jeune est problématique, donc on va essayer de l'aborder d'une certaine façon. Non pas le priver de ce qu'il aime, par exemple de se présenter dans des discours ou bien etc. Non, on va lui donner la chance de le faire, mais en même temps on va pouvoir le contrôler, on va pouvoir lui parler, et quand il dépasse les bornes, ben là on lui dit tu viens de dépasser les bornes, donc qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que c'est cette approche qui a pu servir et qui nous a permis d'avancer. L'autre chose, c'est qu'il y a une très grande ouverture de la part des différents organismes communautaires qui sont là-bas. Là vraiment je pense que Saint-Michel s'est vraiment assis ensemble et on a pu regarder, on regardait qui avait la meilleure aptitude pour agir avec dans telle situation. J'ai déjà vu, c'est vrai qu'on a déjà eu des problèmes, mais avec un organisme communautaire qui a déjà dit, écoutez, moi je pense que la maison d'Haïti est mieux outillée pour intervenir sur tel dossier. Et c'est comme ça qu'on a réussi à travailler dans Saint-Michel, donc on ne se piétine pas les uns les autres, donc on arrive vraiment à avoir une entente globale et générale, et le jeune est gagnant là-dedans. Parce que aujourd'hui, ok, dans le quartier Saint-Michel, vous avez des jeunes qui participent, par exemple, au projet Box avec la police, avec les policiers. Un policier comme Evans Guercy, qui connaît très bien ces jeunes-là. Et les jeunes vont le trouver. Evans Guercy, là, quand, par exemple, un jeune a un problème, le jeune appelle Evans pour dire, écoute, j'ai un problème à tel, tel niveau, qu'est-ce que tu peux faire? Et Evans va se déplacer pour aider ce jeune-là. C'est une question de proximité, et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à le faire. Et c'est ce modèle-là que j'espère un jour pourra être sur Montréal.
Sur toute l'île de Montréal.
Sur toute l'île de Montréal.
Parce que c'est vrai que les quartiers où il y a des problèmes, il n'y a pas que juste que Saint-Michel, Montréal-Nord,
Côte-des-Neiges,
un peu plus à l'est aussi, quand on dit Montréal-Nord, c'est Pinoff, Viau, etc.
Oui, oui, oui.
Mais un peu plus à l'est aussi. Est-ce que vous êtes en relation, cette méthode que vous avez mise en place depuis une vingtaine d'années déjà? Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres quartiers comme ça, difficiles?
Bon, ça veut dire que malheureusement, on n'arrive pas à pouvoir créer cette communication. C'est vrai qu'on s'est déjà assis, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années de ça, avec Montréal-Nord et différents autres coins, où on a peut-être expliqué, mais chacun à un moment donné avait décidé de faire les choses à sa façon. Et justement, aujourd'hui, on se rend compte que la façon de faire de Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel et de François Perrault, est la bonne. Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, à Montréal-Nord, il y a des patrouilleurs issus du service de police, mais qui ont leur t-shirt de patrouilleurs de rue. Mais patrouilleurs de rue, ça, c'est un terme que les autres ne voulaient pas entendre. Donc, malheureusement, chacun pense que, bon, on peut gérer ça à notre façon, et finalement, on se rend compte que peut-être que on est en train de se tromper. Par exemple, ça a été le cas à Montréal-Nord, et ils s'en sont rendus compte aujourd'hui. Maintenant, c'est certain que c'est dommage de voir que c'est en 2008-2009 que Montréal-Nord se prend en main. Quand Saint-Michel l'a fait depuis, je dirais, une bonne dizaine ou quinzaine d'années, et depuis les 4 ou 5 dernières années, réellement, d'accord, on récolte. Ok, vraiment ce qu'on a semé. Mais ce qui est dommage encore, c'est que il y a certains intervenants qui ont l'impression, quand des intervenants, par exemple, de Saint-Michel ou d'autres quartiers viennent leur porter secours ou leur donner quelques conseils, ils ont l'impression que ces intervenants viennent prendre leur place, ce qui n'est pas le cas du tout. Ok, je pense que nous sommes très bien là où nous sommes dans Saint-Michel. Ok, on a un maire en or à Saint-Michel.
Merci, je n'ai pas payé pour dire ça.
Non, mais c'est vrai. Donc, ça veut dire à ce moment-là, parce que moi je me souviens, il y a eu un problème. Moi j'ai vu Annie était sur le front avec moi et Fadi Daguerre, et Annie et moi on a été parler aux médias pour dire voilà ce qui s'est passé, et pour nous, chez nous, tout se passe bien et tout est sous contrôle. Et c'est ça le secret, je pense, qu'on a pu découvrir, et c'est très simple, c'est la proximité avec les jeunes. Mais il faut que les autres arrondissements et les autres quartiers ne croient pas qu'on vienne prendre leur place, mais plutôt qu'on leur amène une façon de faire qui a été testée et qui fonctionne bien.
Très bien, donc nous allons marquer une courte pause histoire de
payer nos factures,
Ranou va s'en occuper, une chanson juste après ça, et on se retrouve tout de suite après.
Je veux devenir chauffeur de taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux profiter d'offres intéressantes propres au domaine du taxi.
Carrefourdutaxi.ca.
Je veux m'informer sur les possibilités de financement.
Carrefourdutaxi.ca. Le Carrefour du Taxi est le seul portail web qui offre les services et outils répondant aux besoins de l'industrie du taxi au Québec. Profitez-en et n'oubliez pas, le beau temps est toujours au rendez-vous avec le Carrefour du Taxi, une initiative de FinTaxi.
Yeah.
voilà, nous sommes de retour sur le 102.3 FM. Vous êtes à l'écoute d'une émission algéro-algérienne, 100% algérienne ce soir. Taxi Maghreb et Montréal la basse.
Taxi Maghreb, c'était 50% algérien, maintenant c'est 100%.
Oui. Ranou est à la technique et Lamine et Issa sont à la tactique. Et nos invités ce soir, ce sont des politiques.
Qui est à la stratégie.
Alors, on revient avec nos invités, avec Madame Annie Sanson. Madame Annie Sanson, est-ce que vous connaissez l'hymne du Canada?
Je la connais, mais demandez-moi pas de la chanter à cette heure.
Non, non, juste
Au Canada.
Au Canada.
Au Canada. Okay. On pourrait dire au Montréal.
OK. Tout à l'heure, on avait comme invité Madame O'Sullivan.
On va rester dans les thématiques.
Et puis, je vois que devant vous, vous avez une bouteille d'eau Naya.
Ouais, puis
pour
je pourrais...
ne pas lui faire de publicité. Et qui dit eau, dit compteur d'eau.
Et on a parlé des 40% d'eau qui sont perdues dans les tuyaux.
Tout à fait. Oui, tout à l'heure. Oui.
Tout à fait. Mais on va rester dans le même. Thème.
Quelque chose à dire sur les compteurs?
Oh mon Dieu Seigneur, il y en a tellement à dire, je vous dirais, il y en a tellement. Vous savez que cette dernière erreur, ce dernier scandale d'administration Tremblay, il faut le dire comme ça, je sais que les gens n'aiment pas ça lorsqu'on critique, mais en 15 ans de vie politique, ça fait 15 ans que je suis là, et de mémoire, je vous dirais même depuis Drapeau, Doré, l'administration Bourque et celle de Tremblay, je n'ai jamais vu une administration où il y a eu une enquête policière sur des actes. Et celle qu'on a actuellement avec M. Tremblay, il n'y en a pas eu une, il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu trois, puis il n'y en a pas eu quatre, puis il n'y en a pas eu cinq. On est rendu à 7 enquêtes policières sur des actes qui ont été posés par l'administration. Et je vous dirais que on peut pas tout mettre sur le dos du maire. Hein? On peut pas dire c'est la faute à M. Tremblay. Mais lorsqu'on est capitaine d'un bateau, quand le bateau il coule, on fait sortir les gens avant, puis on s'organise pour être patron. C'est pour ça qu'on est patron.
Et surtout, on peut pas dire « je ne sais pas ».
La première fois, on peut laisser un doute. Hein? La première enquête, lorsque M. Tremblay dit que c'est lui qui les a tous demandés, là, je pense qu'on va rétablir les faits. Je vous dirais que la première enquête, c'est quand ces deux conseillers dans Saint-Laurent ont été pris la main dans la valise, et pas dans le sac, mais dans la valise plein d'argent liquide. C'est pas le maire qui a appelé la police pour dire « venez donc les surveiller ». C'est parce qu'il y a eu une enquête, il y a eu des écoutes et ça a été prouvé. Deux personnes ont perdu leur droit de vote, ils ont obligé de quitter. C'est une première enquête policière. Le maire a pu dire à ce moment-là, je n'étais pas au courant. Parfait. Mais quand on est
c'est
rendu...
C'est quand même loin, Saint-Laurent du centre-ville.
Oui, mais c'est quand même dans la grande ville de Montréal. Mais c'est quand même peut-être que l'information s'est perdue entre-temps. Mais quand on arrive dans un contrat qui est aussi important que celui des compteurs d'eau à Montréal, on parle de perte d'eau, mais celui-là des contrats, des compteurs d'eau, quand vous regardez comment la décision s'est prise, quelle information on a eue comme élu, puis vous regardez tout ce qui s'est passé à côté... Je comprends pourquoi les citoyens sont tannés de voir des politiciens. Écoutez, j'ai jamais vu autant de personnes impliquées dans un dossier comme celui-là. Il y a 2 ans, Vision Montréal, quand a eu de l'information qui était quand même assez importante, on a mentionné à l'équipe de M. Tremblay au conseil municipal une motion en disant il y a un problème avec le contrat des compteurs d'eau. Les Montréalais en ont pas pour leur argent. M. Tremblay nous a dit « Arrêtez, tout est beau, c'est le meilleur contrat que Montréal n'a jamais eu, 350 millions. » Lorsque vous lisez le rapport du vérificateur qui a été déposé il y a à peu près un mois au dernier conseil municipal, le 21 septembre, on parlait plus de 350 millions, on parlait de 600 millions de dollars. C'est pas rien, 600 millions de dollars, là. C'est énorme pour des Montréalais qui sont déjà surtaxés, ça a pas de bon sens. Et quand vous lisez ce petit livre-là, je vous dirais que c'est quand même du bonbon à lire. On se rend compte que le président du comité exécutif est allé négocier le contrat sur le bateau de celui qui finalement l'a eu, est allé là à plus qu'une reprise, selon nos dires, selon les informations qu'on a. Que ce même président du comité exécutif a décidé un jour de quitter la politique au mois de mai en disant « Je reviendrai, Inch'Allah, dans 6 mois avec un emploi. » Il n'a pas dit « Inch'Allah », mais c'est moi je l'ai dit.
Okay.
Mais c'était à peu près ce qu'il voulait dire. C'est mon sang maghrébin qui ressort.
Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant?
Ben, je vous dirais, moi, là, j'ai appris ma petite phrase en arabe, mon vocabulaire augmente. Là, moi, je vous dirais, les Emen Betlo, Elmire Tremblay, le 1er novembre 2009. Non, mais écoutez, il faut vraiment faire du changement. Et les citoyens, je comprends qu'ils sont tannés de voir ce qui se passe. Mais pour avoir du changement et pour voter pour notre équipe, qui est celle de Mme Harel, qui connaît très bien Montréal, il faut que les gens aillent voter le 1er novembre.
Moi, je poserai la question à Harry, que je connais par son implication communautaire. Harry, tu as donné 17 ans de ta vie à aider la communauté, à aider en fin de compte les personnes qui vivent dans un quartier où il y a quand même beaucoup de difficultés. Mm-hmm. Tu es très aimé, très apprécié dans ton contexte communautaire. Tu t'engages en politique en choisissant un parti. Est-ce que tu ne prends pas un risque ?
En fait, oui, je prends un risque. Le risque est énorme, mais j'ai déjà tout calculé. La relève est prête. Mais pourquoi je prends ce risque ? C'est arrivé justement l'année dernière quand je me trouvais devant la caméra de TVA et où il y avait encore une fois le maire Tremblay qui était là et qui disait « Il n'y en a pas de problème, il n'y a pas de profilage racial à Montréal-Nord. » Et là, l'animateur qui me demande, Monsieur Delva, qu'est-ce que vous en pensez ? Je lui dis, bon, peut-être que le maire ne sait pas exactement ce qu'il dit, parce que c'est un problème de profilage racial et c'est réel. Maintenant, ce que je comprends, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et c'était le cas aussi du maire de l'arrondissement de Montréal-Nord. Il ne savait pas que dans ce coin-là, il y avait tous ces problèmes-là et comment ça se passait. Donc moi, je me suis proposé de dire que je me lance pour justement être présent sur le terrain, connaître ce terrain et pouvoir m'assurer que ce qui va être fait dans le quartier, ce qu'on a fait de bien dans ce quartier va pouvoir continuer. Et si on peut améliorer plusieurs autres choses, on va le faire aussi. Quand je fais mon porte-à-porte, je ne dis pas aux gens que je vous promets ci et ça, je dis je promets une chose, je serai présent. Et quand il y aura un problème, je serai toujours là avec vous pour pouvoir le contrecarrer ce problème. Mais maintenant, c'est sûr que le risque est énorme, mais j'ai une équipe tellement merveilleuse. Hein. Quand on a Nawal avec nous là, qui s'occupe de l'agenda, hein, n'est-ce pas?
Donc, Nawal Berkshi.
Ok. Et toute l'équipe, je pense, moi je pense que ça vaut la peine, que peu importe la situation, parce qu'on avait travaillé déjà depuis longtemps avec Annie, on a vu comment ça se passait, et je pense que c'est quand Annie m'a approché que j'ai dit tiens, ok, si c'est Annie qui m'approche, ça veut dire que je suis sûr qu'elle va bien prendre soin de moi, donc à ce moment-là, on se lance, mais on fait ce qu'on a à faire, et je suis certain que ça devrait très très bien se passer.
Excellent. Annie, est-ce que vous aimez le hockey?
J'aime beaucoup le hockey parce que vous savez que dans notre arrondissement, on est le seul arrondissement de Montréal à avoir la patinoire des Canadiens qui s'est installée dans le parc François Perrault.
Pour le...
Qui est en plein chantier.
Non,
c'est déjà fini.
C'est fini, la patinoire.
Ben oui, elle est opérationnelle depuis...
Je parle du parc qui est en chantier.
Le parc est en chantier pour sa dernière phase. Donc, justement, pour bien faire un bel environnement autour de cette patinoire-là.
On aura un beau 24 juin l'année prochaine.
Et est-ce que vous savez que le Canadien a encore gagné ce soir?
Non, j'ai pas eu la chance de l'écouter, mais bravo, Mabrouk.
Oui, le Canadien a gagné après prolongation.
Mais je vous dirais, Canadiens.
Wash les Canadiens. Alors, vous aimez le hockey. Nous aussi, on adore, mais nous...
On préfère le foot.
On préfère le foot.
Tout à fait.
C'est le hockey sur gazon.
Ouais.
C'est le hockey sur gazon.
Oui, le hockey sur gazon, oui.
Sans bâton.
Sans bâton, oui. Non, on n'est pas violent, nous.
La preuve.
La preuve, on joue le hockey sans bâton.
Mais on a eu la chance de voir Zidane cet été. On a vu Zinedine Zidane ici à Montréal jouer contre les policiers.
Exactement.
Contre l'équipe des policiers. Et savez-vous que le capitaine de l'équipe des policiers était le commandant du poste de police de Saint-Michel, Fadi Daguerre?
Ben oui, Fadi Daguerre qu'on salue d'abord et qu'on avait reçu ici pour justement expliquer ce qui s'était passé à l'époque sur le boulevard Saint-Michel. Sur la rue Jean Talon. Je parle de hockey et de football. C'est parce que j'ai envie de donner les résultats de la 8e journée du championnat national algérien de football.
Et ça, c'est un rituel que Issa ne peut pas...
Ah, moi, je ne peux pas me passer de ça. Moi, si je ne donne pas les résultats d'une journée de championnat de football en Algérie, je ne suis pas bien dans ma peau.
Non, tu ne viens pas.
Je ne viens pas du tout, mais alors, pas du tout. Alors, cette journée a été marquée surtout par les victoires en déplacement de la JSM Béjaïa à Chlef contre l'ASO et celle du Mouloudia d'Alger à Batna contre le CAB de Batna. Les résultats par les chiffres.
Maintenant, je comprends pourquoi tu veux donner les résultats.
C'est parce que Béjaïa a gagné à Chlef. Donc les résultats par les chiffres, Atizi Ouzoula, JS Kabylie a battu la Escholopa 3-0. A Annabal Uassam Annaba a disposé du Shabab de Belouizdad par 3-0. A Batna, le Cap de Batna s'est fait surprendre par le Mouloudia d'Alger, score final 2-1. Tout comme la GSM Béjaïa qui a battu la Issochlef à Tom, s'il vous plaît, à domicile, 1-0. A Usende, le Nerd a battu le Wida de Tlemcen par 1-0. A El Haraj, le SM El Haraj a battu le Mouloudia d'El Ulma par 1-0. A Oran, le Mouloudia d'Oran a battu le SM Blida par 1-0. Et à Alger, l'USM Alger a battu le Mouloudia de Batna par 3-1. Au classement, en tête, le Mouloudia d'Alger avec 18 points, suivi de l'USM El Haraj avec 16 points. En troisième position, l'USM Al Naba avec 15 points. Et les trois dernières positions sont occupées par le Mouloudia de Batna, l'AS Khroub et l'AS Chlef. Il y a eu aussi un autre résultat intéressant, toujours en football et toujours en Algérie, quoique le match se soit disputé un peu loin d'Algérie, au Nigeria plus exactement, où l'entente de Sétif est allée réaliser une excellente opération en imposant le match nul à son adversaire, le FC Bayelsa du Nigeria, donc dans un match comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. C'est Abdelmalek Ziyaya sur pénalty qui a permis aux Sétifiens de revenir avec le point du match nul sur un pénalty à 10 minutes de la fin. Le match retour aura lieu à Sétif le 18 octobre prochain. Nous allons marquer une autre courte pause musicale avec quelqu'un qui s'appelle Ben Zina et on vous retrouve tout de suite après pour le mot de la fin ou les mots de la fin puisqu'on n'est pas seul, on est accompagné. C'était Ben Zina et puis donc on retrouve nos invités pour quoi, il est
23h54 c'est
ben on s'excuse, il est il faut faire
officiellement, il faut s'excuser.
Après 23h, on peut pas danser, surtout que il y a des gens qui dorment déjà à minuit. Alors on retrouve nos invités, madame Annie Sanson, une dernière question. Si jamais on va se projeter dans l'avenir, on est dans l'après 1er novembre, si jamais vous êtes élu et qu'une communauté quelconque de des quartiers où vous allez régner, vous sollicite pour pour la création d'un centre, on parlait tout à l'heure de centre, genre un, je sais pas, un centre culturel, est-ce que vous seriez prête, est-ce que c'est dans vos prérogatives justement de les aider matériellement pour la concrétisation d'un tel projet?
Ben, je vous dirais que nous, on travaille toujours avec nos organisations qui sont chez nous. Cette question-là, il y a une question semblable qui m'a été posée à la mosquée hier, lors de ma visite dans une mosquée hier. Ce qu'il faut dire, c'est que la ville n'a pas les moyens d'investir dans des centres communautaires privés pour un organisme, pour un autre. On est partenaire avec eux, donc on peut les aider, tout dépendant du projet. Ce que moi, je leur dis, c'est venez nous voir au bureau. On va regarder l'ampleur du projet, on va pouvoir vous aider, vous acheminer là-dedans, vous aider à trouver des subventions, parce que ça coûte quand même extrêmement cher. Mais on travaille avec tout le monde. Je vous dirais que chez nous, dans l'arrondissement, j'ai au-dessus d'une centaine de communautés culturelles différentes, avec chacune des besoins bien particuliers. Alors, si je commence à investir le peu d'argent qu'on a dans l'arrondissement là-dedans, je pourrais plus en mettre dans mes rues, dans mes trottoirs, dans mes parcs et dans mes équipements. Donc, nous, ce qu'on fait, on les accompagne souvent en arrondissement à d'autres paliers où ils peuvent avoir des programmes de subvention, mais on a l'expertise pour le faire. Donc, on est partenaire avec eux. On les aide dans l'obtention de leur permis, changement de zonage s'il y a besoin. On est vraiment là pour travailler avec eux.
Très bien. C'est la mine, on a pratiquement terminé. Un dernier mot peut-être?
Un dernier mot. Moi, je vous dirais, allez voter le 1er novembre. C'est extrêmement important. C'est le devoir de nos citoyens de s'exprimer. Malheureusement, seulement 35% des citoyens s'impliquent au niveau municipal. Ça devrait être le contraire. C'est le niveau le plus important à Montréal. Donc, pour Lazem Bedlo Elmire Tremblay, il faut la remplacer le 1er novembre.
Lazem Bedlo, oui.
Lazem Bedlo, on est toujours dans le thème de l'eau. Mais je vous dirais, il faut aller voter pour l'équipe de Mme Harel. Peu importe où vous êtes à Montréal, il nous faut quelqu'un qui va nous redonner nos lettres de noblesse et qui va redonner surtout notre crédibilité sur le plan international sans corruption.
Surtout qu'on est habitué avec le maire, les maires.
Harry Delva,
oui.
Un dernier mot.
Enfin, le mot se ressemble beaucoup, puisque moi je dirais aux gens de sortir voter, et je pense que c'est un devoir, c'est surtout pour les jeunes qui aiment le respect. Le premier respect que vous allez avoir, c'est en allant voter, parce que vous allez pouvoir voter pour les gens que vous avez choisis. Donc, le 1er novembre, sortez.
Ben, merci d'avoir accepté notre invitation, et puis bonne chance pour ces élections. Merci à Rano qui était à la console technique.
Merci à Issa et à Texaha.
Merci à Lamine et à Texaha.
Donc la semaine prochaine.
Je vous rappelle que la semaine prochaine.
Ce sera encore une autre émission 100%
algérienne. Et
sur le foot.
100% ouais. Foot.
Foot.
Alors préparez-vous. Et puis je dis à nos amis haïtiens de prendre leur mal en patience, leur animateur fétiche. Pierre-Michel Bolivar est là, prêt à prendre la relève. Il sera avec vous en ondes dans quelques minutes. Et on se laisse sur une musique et une chanson de notre grande star rock. Qui?
Rock.
Oui.
Aïch Falman, hein, de tout le monde.
Non, Aïch Falman, ça.
Ah, vas-y.
Non.
Rock.
Alors, on vous laisse avec lui. Vous allez savoir qui c'est.